Laudetur Jesus Christus.
Fragile espoir de trêve dans la bande de Gaza, les États-Unis ont transmis une proposition de cessez-le-feu acceptée par Israël, mais le Hamas estime qu'elle ne répond pas aux demandes du peuple palestinien. Nous irons à Tel Aviv au début de ce journal. La Syrie en passe d'avoir de l'électricité, alors que les coupures de courant rythmaient toujours le quotidien de millions de Syriens, un vaste plan de reconstruction du réseau énergétique vient d'être officiellement lancé. À la une de ce journal également, le Portugal en pleine tractation politique pour former le prochain gouvernement, dans un pays où l'extrême droite est désormais la deuxième force politique. Et puis dans notre dossier ce matin, gros plan sur un pays médiateur de premier plan sur le continent africain, l'Angola. Luanda, malgré sa discrétion, semble être devenu un acteur incontournable dans la diplomatie africaine.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
Bonjour. Y aura-t-il une nouvelle trêve dans la bande de Gaza? Les États-Unis poussent en tout cas pour un cessez-le-feu, selon la Maison-Blanche. Donald Trump et son envoyé spécial pour le Proche-Orient, Steve Witkoff, ont soumis au Hamas une proposition qu'Israël soutient, libération d'otages contre prisonniers et aide humanitaire. Les précisions à Tel Aviv de Julia Ganancia.
Selon la Maison-Blanche, le gouvernement israélien aurait accepté la proposition de cessez-le-feu formulée par les États-Unis, un accord que le Hamas n'a pas encore accepté. Le groupe terroriste avait indiqué un peu plus tôt dans la journée de jeudi étudier la proposition. Alors selon les premiers éléments, le cessez-le-feu porte sur une suspension des combats de 60 jours, l'assurance de négociations sérieuses pour une trêve prolongée et la garantie qu'Israël ne reprendra pas les frappes une fois tous les otages israéliens libérés des tunnels du Hamas. Pendant cette pause de 60 jours, le Hamas, de son côté, libérerait les derniers otages encore vivants et rendrait les derniers corps. 57 Israéliens restent retenus à Gaza, dont au moins 34 ont été tués pendant leur captivité. En échange, 1100 prisonniers palestiniens seraient libérés, dont 100 sont emprisonnés pour avoir participé à des attentats terroristes. Face aux besoins de la population gazaouie, l'accord prévoit aussi un élargissement de l'accès du territoire à l'aide humanitaire. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
Et malgré les signaux envoyés, cette proposition de trêve doit être prise avec grande prudence. Le Hamas estime que cette proposition n'est que la perpétuation de l'occupation, la poursuite des meurtres et de la famine, et ne répond aucunement aux demandes du peuple palestinien. Les bombardements, eux, continuent sur l'enclave palestinienne, tout comme le blocus humanitaire. L'aide internationale est toujours bloquée par l'armée israélienne. Seules des livraisons ciblées d'une fondation créée par l'État hébreu et les États-Unis peuvent assurer la distribution de vivres, une aide largement insuffisante, déplore l'ONU et les ONG. Emmanuel Macron invite lui à durcir la position contre Israël s'il n'y a pas justement d'ouverture humanitaire. Depuis Singapour, où il est en visite, le président français a par ailleurs appelé ce matin que la reconnaissance d'un État palestinien sous condition est un devoir moral et une exigence politique. Et si la guerre se poursuit à Gaza, elle continue aussi à bas bruit dans le sud du Liban, le long de la frontière. Hier, deux hommes ont été tués dans des frappes israéliennes. Selon le ministère libanais de la Santé, Israël affirme avoir visé un membre du Hezbollah. L'électricité pourrait enfin revenir durablement en Syrie, alors que les coupures de courant rythment toujours le quotidien de millions de Syriens. Un vaste plan de reconstruction du réseau énergétique a été officiellement lancé hier à Damas. Le gouvernement a signé un accord avec plusieurs groupes internationaux pour doubler la capacité de production électrique du pays. Les explications de notre correspondant Mohamed Erami.
C'est un projet inédit depuis le début de la guerre civile. La Syrie va doubler sa capacité électrique, aujourd'hui estimée à environ 5000 MW. Jeudi 29 mai, au palais présidentiel de Damas, un accord a été signé entre le ministère syrien de l'énergie et quatre grandes entreprises étrangères, dont la Qatari UCC Holding, la turque Senzige Energy et Power International USA. Un signal fort dans un pays où l'électricité publique n'est disponible que 2 à 3 heures par jour dans la plupart des régions. Le projet, baptisé Syria Power Revival Initiative, prévoit le déploiement de centrales à gaz et solaires. Il s'inscrit dans le processus de reconstruction après 14 années de conflits qui ont ravagé les infrastructures. Les anciens approvisionnements en pétrole iranien sont désormais à l'arrêt et depuis mars, c'est le Qatar qui fournit provisoirement du gaz à la centrale principale de Damas. Dans la rue, les habitants aussi entre espoir et scepticisme. On veut y croire, mais il faudra voir si ça change vraiment quelque chose, nous dit Maïsoun, une habitante de la capitale qui vit avec moins de 3 heures d'électricité par jour. Côté gouvernement, le président Ahmed El-Shara s'est engagé à rétablir un service continu d'ici 2 ans. Un chantier colossal et une promesse très attendue.
Mohamed Erami, Damas, pour Radio Vatican.
Damas, où s'est rendu hier l'envoyé spécial américain pour la Syrie, Thomas Barak. 13 ans après sa fermeture, l'ambassade américaine a de nouveau rouverte. Washington a annoncé la levée des sanctions économiques qui pesaient sur le pays prise sous la dictature de Bachar al-Assad. Les négociations commerciales entre Washington et Pékin sont pour l'heure dans l'impasse. C'est l'aveu fait ce vendredi par le secrétaire d'État, le secrétaire américain pour le Trésor, Scott Bessent, qui suggère que les présidents Donald Trump et Xi Jinping puissent y prendre part directement. Les États-Unis ou les droits de douane de Donald Trump vont pouvoir rester en place au moins provisoirement. C'est la décision prise hier par une cour d'appel américaine. La veille, un tribunal fédéral avait en effet gelé la plupart des taxes douanières décidées par le président américain, estimant que celui-ci avait outrepassé ses droits. Une victoire donc pour Donald Trump, mais qui pourrait n'être que temporaire pour l'administration en place. La guerre judiciaire semble bien être ouverte. Les précisions de Loïc Loury.
Le 2 avril, en annonçant ses taxes dites réciproques contre le reste du monde, Donald Trump évoquait un jour de la libération, mais le président avait sans aucun doute crié victoire beaucoup trop tôt. Hier, une cour d'appel l'a certes autorisé à maintenir les droits de douane suspendus moins de 24 heures auparavant, mais la décision n'est que provisoire le temps que le tribunal se prononce sur le fond, et au terme de ce ping-pong judiciaire, le milliardaire est tout sauf assuré de l'emporter, y compris si l'affaire venait à remonter jusqu'à la Cour suprême. Dans l'immédiat, les tarifs douaniers de Donald Trump bénéficient donc bien d'un sursis, mais leur avenir est entre les mains des juges au grand désarroi du président, lui qui pourrait se voir privé de son plus important levier de pression, ainsi que d'une manne censée absorber le coût abyssal de sa grande loi budgétaire. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
90 drones et 2 missiles russes lancés sur l'Ukraine la nuit dernière. Les principales zones de frappe aérienne sont les régions de Kharkiv, d'Odessa ou encore de Donetsk. Concernant un nouveau cycle de négociations prévu lundi prochain à Istanbul, les garanties restent fragiles. Kiev se dit prête à participer à ces nouveaux pourparlers proposés par Moscou, mais exige que la Russie lui transmette au préalable les détails d'une paix durable, une exigence rejetée jusqu'ici par la partie russe. L'ONU demande de son côté des efforts sérieux, démontrables et de bonne foi pour retourner sur un chemin qui puisse mener à une paix juste et qui respecte l'intégralité de l'Ukraine. Direction le Portugal à présent, où le Premier ministre de droite, Luis Montenegro, a été reconduit hier au poste de Premier ministre après sa victoire aux élections législatives le 18 mai dernier. L'heure est désormais aux tractations pour cet avocat de 52 ans dans un paysage politique où l'extrême droite portugaise, incarnée par le parti Chega, a fait une percée spectaculaire. La correspondance à Lisbonne de Catherine Laurent.
Sans grande surprise, le Premier ministre sortant est reconduit à ses fonctions. La coalition de droite qu'il mène a remporté les législatives anticipées du 18 mai et il dispose de 91 sièges au Parlement. Toutefois, il n'atteint pas la majorité absolue des 116 sièges exigés. Luis Montenegro est donc confronté à une situation équivalente à celle qu'il avait lors de son mandat précédent qui n'a duré qu'un an. Il lui faudra composer avec le parti d'extrême droite, le Chega, qui s'est hissé à la deuxième place sur l'échiquier politique, véritable surprise du scrutin. Grâce au vote des Portugais de l'étranger, notamment en France, en Suisse et au Luxembourg, il devance de 2 sièges le Parti socialiste. C'est la première fois en 50 ans de démocratie que l'un des 2 grands partis qui l'ont fondé se retrouve relégué en 3e position. Chega, qui a posé des conditions en matière de contrôle de l'immigration et exige également un changement de constitution, a cependant affirmé qu'il garantirait la stabilité du gouvernement Monténégro. Malgré la défaite amère, le PS fera de même. Le nouveau gouvernement ne prendra pas ses fonctions avant le 6 juin. À Lisbonne, Catherine Laurent pour Radio Vatican.
Une visite surprise hier du pape Léon XIV à Castel Gandolfo. Le pape a rejoint la petite ville des Castelli Romani dans le milieu de la matinée pour visiter le village Laudato Si, un projet créé par le pape François en 2023. Situé dans l'ancienne résidence d'été des papes, cet endroit se veut comme un espace de formation sur les thèmes de la maison commune, exemple de cette écologie intégrale sur la base de son encyclique Laudato Si, publiée il y a tout juste 10 ans. Plus de détails à retrouver sur notre site internet. En République démocratique, démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila est depuis dimanche dernier à Goma, la capitale du Nord Kivu. Son retour au premier plan ne fait plus de doute, comme son engagement à trouver une solution pour mettre fin au conflit qui ravage l'est du pays. Hier, Kabila a reçu plusieurs responsables religieux pour des consultations. Selon Joël Amourani, le président de la plateforme des confessions religieuses du Nord Kivu, les délégués lui ont demandé de jouer un rôle de médiateur. L'Angola renforce son image de médiateur clé en Afrique centrale, rôle historiquement dévolu au Sénégal ou encore à l'Afrique du Sud. La médiation réussie du Gabon au Gabon du président angolais João Lourenço a été saluée récemment par des observateurs internationaux. Dans un contexte de crise politique gabonaise, les négociations menées par l'Angola ont abouti à la libération de Sylvia Bongo, l'épouse de l'ancien président Ali Bongo et de leur fils, tous deux détenus depuis plusieurs mois. La famille Bongo a quitté Libreville pour Luanda dans la nuit du 15 au 16 mai dernier. Face au coup d'État militaire et aux transitions incertaines dans la région, Luanda s'imposerait-il aujourd'hui comme un médiateur incontournable? C'est l'objet de notre dossier ce matin et avec notre invité Didier Péclard. Il est professeur de sciences politiques et dirige le master en études africaines à l'Université de Genève.
On peut dire que l'Angola a eu un rôle important, est un poids économique important, disons, entre le Nigeria au nord, autre grand producteur de pétrole, et l'Afrique du Sud pour la partie vraiment australe. Et l'Angola essaye depuis pas mal de temps de s'imposer aussi comme un acteur de poids dans la partie centrale de l'Afrique. Mais pour l'instant, disons, ces tentatives dans la médiation n'ont pas toujours été couronnées de succès.
Et vous faites certainement allusion à sa médiation en ce qui concerne le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi, selon vous, Luanda s'est retiré au final de cette médiation?
Une des raisons est certainement liée à la difficulté d'amener les deux parties au conflit à une véritable négociation. Il y a eu quand même plusieurs camouflets, des tentatives d'organiser un sommet, puis les parties directement concernées ne viennent pas. Donc je pense qu'il y a eu un certain essoufflement, puis aussi ça a correspondu avec le moment où l'Angola a repris la présidence tournante de l'Union africaine. Et puis, probablement qu'il s'agissait aussi d'élargir la palette des dossiers sur lesquels le gouvernement angolais pouvait être actif.
Tout récemment, le président angolais Lourenço s'est personnellement impliqué pour faciliter la sortie des proches d'Ali Bongo. On a pu constater une médiation silencieuse de l'homme, mais stratégique.
Il faut rappeler tout d'abord que le président angolais, alors qu'il n'était pas encore président de l'Union africaine, avait réagi de façon très négative au renversement de la famille Bongo au Gabon, de la même manière que d'autres leaders africains, commencé par un des voisins du Gabon, le Cameroun, qui avait critiqué en fait la prise de pouvoir du nouveau président. Ça a créé des relations très tendues entre le Gabon et l'Angola pendant un certain nombre de mois. Probablement que la médiation pour la sortie d'Ali Bongo et de ses proches du Gabon vers l'Angola et probablement, on imagine, vers une autre destination, s'inscrit aussi dans une tentative de normalisation des relations entre le Gabon et l'Union africaine en général et puis ses voisins de poids. Je pense qu'il y a tout intérêt aussi des nouvelles autorités au Gabon de faire cette tentative de rétablissement de bonnes relations diplomatiques et probablement que ce qui a permis cela, ce sont les élections présidentielles qui se sont récemment tenues au Gabon.
Au-delà de sa médiation, comment vous percevez aujourd'hui son action diplomatique ?
D'une part, il y a certainement une recherche de la part du gouvernement présent de João Lourenço, mais ça avait déjà été le cas du gouvernement précédent de José Eduardo dos Santos, de devenir un acteur qui compte sur la scène africaine dans le domaine de la diplomatie. Donc il y a une véritable intention de peser. D'un autre côté, je pense qu'il y a aussi de la part de João Lourenço une volonté de marquer en fait l'histoire en s'imposant justement comme un médiateur efficace en Afrique. Et puis il y a une troisième dimension qui est importante aussi, c'est que la projection sur la scène internationale arrive à un moment où le président João Lourenço a été quand même très fortement contesté à l'intérieur. Les dernières élections ont été remportées de justesse par le MPLA, avec beaucoup de contestations de la part de l'opposition sur le processus électoral lui-même. L'Angola a de la peine à sortir aussi d'une grave crise économique liée à la baisse accentuée des cours du pétrole sur les marchés internationaux. Donc tout ça pousse aussi en quelque sorte à essayer d'obtenir à l'international des succès que le président peine aussi à obtenir au niveau national actuellement.
Interrogé par Myriam Sandouno, Didier Péclard, directeur du Master en études africaines à l'Université de Genève, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver à 13h heure de Rome pour une nouvelle édition. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet, notre page Facebook. Excellente journée à tous.